Tokyo 89.5. Alors, un tout petit souci de régie pour le moment, pour le début de cette émission mensuelle de Radio Audio. On va régler ça assez rapidement, j'espère. Allez, maintenant c'est parti. Voilà. Donc, bonjour à tous pour l'émission mensuelle du Grémos, le troisième jeudi de chaque mois, donc la dernière émission de la saison. Avec aujourd'hui, pour nous conduire dans ces mondes et ces mémoires, les mémoires des mondes ouvriers stéphanois, Jean-Michel et Catherine. Donc je vais laisser présenter la thématique de l'émission d'aujourd'hui. Donc qui veut commencer?
Bonjour.
Donc c'est Catherine qui va nous dire l'essentiel d'aujourd'hui. Catherine Gauthier, donc sociologue de l'Institut Max Weber. Catherine, donc tu vas te présenter rapidement. On va parler aujourd'hui d'un ouvrage que tu as sorti il y a peu de temps, D'ici et de là-bas, en collaboration avec le Puy Couriot et son directeur Philippe Père, donc dans la collection Patrimoine du bassin de la Loire. Et donc c'est un ouvrage qui parle des mineurs, enfin qui évoque les mineurs venus de Kabylie, sur lesquels tu as beaucoup travaillé. Donc d'abord tu vas te présenter un peu ton parcours et puis après on parlera un petit peu plus longuement de l'ouvrage.
Alors oui, donc je suis socio-anthropologue, ça veut dire en gros que les terrains que j'approche, je les approche par une démarche qui est plus anthropologique que statistique, et donc l'idée c'est d'être au plus près des populations pour comprendre par leur vécu, on va dire, et ici pour le coup par leur témoignage, des éléments de leur vie sociale. Oui, pour la démarche, donc en fait je suis chercheur au Centre Max Weber à l'Université de Saint-Étienne, et par ailleurs j'enseigne à l'École d'archi de Saint-Étienne.
Et avant de venir à cet ouvrage que je représenterai rapidement et à ta démarche, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait précédemment comme recherche?
Alors, l'essentiel des recherches que j'ai fait avant portait sur les mobilités des migrants marocains entre la France et le Maroc, puisque c'était mon sujet de thèse. Et que après une recherche préalable sur, qui est aussi liée à ce travail dont on va parler, un travail préalable qui portait sur les commerçants de la place du Pont à Lyon. Et c'était à la fin des années 80, début des années 90. Donc il y avait beaucoup de choses qui se faisaient en anthropologie urbaine où on essayait de comprendre les implantations, les relations sociales entre les commerçants et leurs quartiers, et puis en même temps de voir quel rôle ils jouaient éventuellement dans les communautés immigrées. Et puis à l'époque, se posait aussi un petit peu la question des rapports entre, pour moi en tout cas, ça m'intriguait, les rapports entre les commerçants juifs et musulmans sur la place du Pont. Et donc j'avais travaillé sur leur affirmation identitaire, la mise en scène de leur commerce, de leur boutique, de leur vitrine. Pardon. Et donc l'idée déjà à l'époque, c'était de s'interroger sur la place de l'étranger dans la ville, donc c'est-à-dire à la fois la place qu'on lui faisait et en même temps la place qu'il prenait. Voilà.
D'accord, donc c'est vraiment ta préoccupation première, la colonne vertébrale de ta recherche, c'est quand même l'immigration.
C'est l'immigration, et voilà. Puis, alors plus, même je dirais que c'est presque plus général, parce que la place de l'étranger dans la ville, c'est pas seulement l'immigration, ça peut être l'étranger de passage, et puis ça peut être quelque chose qu'on attrape plus comme une migration, parce que les individus sont pas uniquement d'ici et uniquement installés ici. De là-bas, je veux dire, et installés ici, mais ils sont dans cette, à la fois dans l'entre-deux, et puis ici et là-bas, voilà. D'où d'ailleurs le...
Oui. Et en fait, le livre, donc, d'abord, c'est un très beau livre, très bien illustré, très bien mis en page, je vois, donc, par l'atelier Kaïn Grégory, donc, avec l'aide, comme je l'ai dit tout à l'heure, du musée de la mine, du Puy Couriot. Et donc ce livre, il est organisé en deux grandes parties. Une première partie qui, je dirais, explore la relation entre Timisoara et Saint-Étienne. Et puis une deuxième partie où on voit apparaître des témoignages que tu as recueillis auprès de ces étrangers.
C'est ça.
De ces étrangers installés à Saint-Étienne. Donc il y a une partie qui s'intitule, un chapitre qui s'intitule « Le village derrière soi ». Et j'ai presque envie de dire qu'on aurait pu l'appeler ce livre « La ville devant soi, le village derrière soi ».
Oui, c'est un peu ça. Alors après, du coup, là, il y a un peu la dichotomie campagne-ville qui apparaît, mais qui correspond à une réalité. Même si la réalité est toujours plus complexe que les schémas et que Teams-Rit, donc en fait c'est la région à laquelle je me suis intéressée, c'est un peu entre les deux, c'est un peu entre la ville et la campagne, puisque c'est comme on connaît bien à Saint-Étienne, une de ces régions dans lesquelles la vie rurale est très importante, mais la vie industrielle s'est implantée au début du XXe siècle et a considérablement développé l'économie et la sociologie du lieu.
Une campagne industrialisée.
Donc c'est une campagne industrialisée, et puis c'est un gros bourg quand même, puisque c'est un rassemblement de villages en fait. C'est une grappe de villages qui se déploie le long d'une route secondaire qui relie l'industrie du lieu à la vallée, à la route de la vallée qui conduit donc à Béjaïa, qui est la capitale de cette région, puisqu'on est en petite Kabylie.
Alors effectivement, il y a deux documents qui sont tout à fait passionnants, enfin, en tout cas pour les gens qui ont fait un petit peu de géographie.
Oui.
C'est ces deux cartes, page 208-209, là où on a mis en parallèle, à la même échelle, j'insiste bien, Saint-Étienne et Teams-Rit, et où on voit que c'est ce phénomène de grappe que tu évoques là, pour Teams-Rit. Et donc la superposition, finalement Saint-Étienne est aussi né un petit peu par de petits villages qui se sont agglomérés. Et il y a aussi cette idée de dénivelé, puisqu'on a quand même, entre la gare de Teams-Rit et la mine, un dénivelé qui est de l'ordre de 700 mètres. Hein. C'est même plus impressionnant qu'à Saint-Étienne.
Oui, et oui, parce qu'en fait, alors c'est vraiment une géographie très particulière. Mmh. Évidemment, Saint-Étienne est faite de collines, mais sur ce dénivelé-là, Teams-Rit aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur un flanc de montagne et que sur ce flanc de montagne poussent des tétons, des petites collines qui sont accolées en fait au versant. Donc, c'est une colline sur un flanc de montagne, des collines sur un flanc de montagne. Donc, c'est vraiment des petits villages collinaires qui se sont agglutinés entre eux.
D'accord.
Donc en fait, tu as un petit peu défloré l'industrie qui fait vivre le village, puisqu'il s'agit d'une mine de fer. Mmh. Et peut-être que du coup, on peut passer, Antoine, le premier extrait, qui est le discours d'un professeur de Teams-Rit, professeur de mathématiques, qui fait partie de l'association avec laquelle j'ai été en contact par l'intermédiaire du Cinéma Le France, pour commencer cette recherche. Donc on va l'écouter, puis on en dira quelques mots après.
Dans votre imaginaire, la mine de Saint-Étienne, vous la voyez comme ça ou... Là, maintenant que vous êtes devant aujourd'hui,
moi personnellement, je ne la voyais pas comme ça. Je pensais que toutes les mines avaient la même conception. Je pensais que c'est à peu près la même conception que la mine de Teams-Rit. Finalement, c'était la plaine. Et puis les bâtiments ou les édifices sont plus ou moins gardés, protégés. C'est pas comme la mine Teams-Rit qui est vraiment en ruine. C'est vraiment désolé pour nous, pour les générations futures. Voilà.
Bon, donc à partir de ce témoignage, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu d'abord la démarche qui a abouti à ce livre, et ensuite à l'exposition, et même au film, hein, je crois qu'il y a un film aussi dans cette affaire, et deuxièmement, ce que tu en as retiré comme cet échange que tu disais au début entre les Stéphanois et les habitants de cette région de Teams-Rit, cette espèce de va-et-vient en imaginaire, puisque la personne qui parle ici vient pour la première fois à Saint-Étienne. Elle n'a jamais vécu à Saint-Étienne, mais elle a de la famille qui vivait à Saint-Étienne, qui est venue travailler à Saint-Étienne.
Voilà, c'est ça. Mmh. Alors en fait, pour revenir donc à la genèse du travail, bon, moi c'était cette question des mineurs maghrébins qui avaient travaillé dans les mines, c'était quelque chose que j'avais vu avec ma thèse, puisque en travaillant sur les circulations des Marocains entre la France et le Maroc. J'avais donc essayé de retracer leur histoire migratoire, et leur histoire migratoire passe beaucoup par Saint-Étienne, puisque Saint-Étienne a été une ville importante d'accueil des Maghrébins pour travailler dans l'industrie stéphanoise et en particulier dans les mines dès le début du XXe siècle. Voilà, et les Marocains étaient très très nombreux au début avant même la Première Guerre mondiale. Et puis, et au cours de la Première Guerre mondiale, évidemment, ils ont été mobilisés. Et puis les Algériens aussi. Et les Algériens étaient plus nombreux dans l'entre-deux-guerres et au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, c'était un phénomène que je connaissais de ce côté-là, par ce biais-là. Et puis, on a eu à l'université, au sein du labo, l'opportunité de travailler sur l'imaginaire des villes industrielles en reconversion. Donc il y avait eu plusieurs travaux au sein de notre labo, et moi j'avais envie de travailler justement sur la façon dont cette migration-là avait produit des images, ou la façon dont on avait produit des images sur elle. Et donc je pensais à des images réelles, donc des photos, éventuellement des films, parce que j'avais su qu'il en existait, qui passent très rarement, mais que je connaissais un petit peu. Et puis, envie de m'intéresser aux archives, qui sont soit les archives que les familles conservent chez elles, soit les archives qui ont été déposées par les photographes stéphanois, on aura peut-être l'occasion d'en parler, et puis par des amateurs ou des personnes qui veulent faire les dépôts aux archives pour les conserver mieux qu'à la maison. Et puis je me disais que peut-être que dans les familles maghrébines, il y avait des lettres aussi qui me donnaient des indications sur la façon dont c'était perçu ici et là-bas. Donc, un aspect important du travail, c'était que même si le livre porte beaucoup sur Saint-Étienne et la vie à Saint-Étienne, le premier volet de la recherche, c'est plutôt fait en Algérie, où je suis allée pour rencontrer donc les gens de ce village. Et en fait, ça s'est fait par l'intermédiaire donc du cinéma Le France, qui avait déjà commencé à faire un travail sur la mémoire immigrée et qui avait rencontré en Algérie, lors d'un festival, une association cinéphile qui était donc issue de ce village de Timsrit. Et donc, ils sont venus à Saint-Étienne au moment où moi, j'ai rencontré Le France en leur disant « J'ai envie de travailler sur ce sujet, vous avez des contacts, je l'ai su, j'ai vu des petits films que vous aviez tournés. » Et ils m'ont dit « Bah écoute, ça tombe bien, nous, on aimerait bien un regard d'anthropologue sur cette question. » Donc, ils viennent en groupe faire un atelier avec les jeunes du village au mois de juillet, donc on était en 2009, et donc tu pourras les rencontrer. Et à cette occasion-là, on avait inventé un petit protocole de rencontre et de production d'images et d'idées. Et donc, on avait prévu de faire un petit débriefing à la descente de l'avion, le lendemain en fait, de leur arrivée, avant que les familles ne les accaparent et qu'ils ne puissent plus, qu'ils fassent une première visite de Saint-Étienne. Donc, pour leur demander un peu la façon dont ils se représentaient Saint-Étienne. Et c'est comme ça que Achour, qu'on entend dans le petit extrait qu'on a entendu, nous présente ses représentations qu'il avait de la mine de Saint-Étienne.
Il n'avait jamais vu, de la part de sa famille, des photos, des cartes postales. Parce que là, ce qui est intéressant dans ton ouvrage, c'est que tu mêles évidemment des photos, on en reparlera plus tard, mais aussi des archives de ces ouvriers. Alors, je pense que pour les auditeurs, c'est une occasion de voir que la notion d'archive est beaucoup plus large que ce qu'ils peuvent imaginer. On n'est plus dans le cadre des chartes seigneuriales ou des documents d'État, mais par exemple, une simple carte d'identité, là, comme on voit page 63, prend une valeur tout à fait intéressante, puisqu'elle nous montre, par exemple, le quartier où habitait cette personne, sa plus ou moins grande aptitude à utiliser le stylo pour signer, et puis qu'il est français.
Hein. Et oui, à l'époque, il est français.
On est en 1960, ouais. C'est un Algérien, et il est français.
Voilà, c'est ça. Oui, donc on avait, quand je parlais des images, c'est aussi les images objets, effectivement. Et donc il y a une série de photos qu'on avait faites des traces. Parce que finalement, le travail est devenu un peu celui-là. C'était l'idée de travailler sur les traces de cette période. Donc il ne faut pas se mentir, c'est aussi parce que les photos et les lettres existent peu. Et voilà. Et que du coup, on sait aussi, on a essayé de produire le maximum de documents à partir donc aussi des objets. Et puis parce que, évidemment, les papiers d'identité, ça fait partie des archives, bien sûr.
Mais la rareté est elle-même évocatrice du statut social.
Voilà, donc ça a été aussi un travail en creux. Donc c'est évocatrice du statut social et puis d'un rapport au matériel aussi qui est particulier, puisqu'on est quand même dans une culture de l'oralité et où... on a en même temps aussi un rapport à la trace qui s'est compliqué par l'histoire, parce que c'était donc effectivement une transmission orale, donc on avait moins besoin de garder les choses que les lettres. On ne savait pas lire, donc on se les faisait lire par un écrivain public, écrire et lire par un écrivain public. Donc du coup on ne les gardait pas parce qu'on ne pouvait pas les relire, et que l'objet écrit n'avait pas forcément d'intérêt, sauf pour quelques lettrés qui témoignent aussi dans le livre. Et sinon, en plus, pendant la guerre d'Algérie, la libération, on ne gardait pas les papiers.
Bien sûr.
Et beaucoup ont été à ce moment-là cachés, soit enterrés dans de la terre, soit cachés dans des trous des murs, parce que c'était une pratique aussi qui se faisait. Je pense que c'est... Il faudrait travailler plus là-dessus, mais je pense que c'est presque une pratique ancestrale pour les Kabyles, qui ont une politique de résistance et de cache. Donc il cachait aussi dans les murs, et ça s'est perdu parce qu'il y a eu quelques bombardements dans la région aussi pour
les rats aussi
qui viennent manger. Aussi il y a les rats aussi qui viennent manger, voilà, puis le temps qui passe, qui dégrade, etc. Donc les documents ont aussi disparu, d'où l'envie de travailler sur ce qui reste, et ce qui reste c'est aussi des objets. Peut-être que du coup, pour revenir un petit peu sur cette idée des images de Saint-Étienne, alors Antoine, c'est pas un extrait que je t'ai donné, mais tu devrais le retrouver. Ça s'appelle Les images de Saint-Étienne, et c'est aussi un petit peu pour voir comment, en arrivant à Saint-Étienne, ils ont des représentations en tête. Tu me dis si c'est ça a l'air de pouvoir fonctionner. Donc ça fait partie du débriefing dont on a déjà un peu parlé. Et puis on reviendra après peut-être sur cette question des archives. Mais du coup, voilà, j'ai travaillé sur les images qui étaient dans les têtes aussi bien que les images photographiées. Vous en avez vu ?
J'en ai vu, mais c'est très rare.
Et qu'est-ce que vous avez vu, par exemple ?
C'était avec leur casque, tout simplement, leur petite portée la lampe là, sur le front, voilà. Mais il faut dire aussi que ce genre de photos, on les avait ici.
Oui.
C'était la même image avec la mine de Chine.
Et c'est qui les faisait, ces photos, alors ? C'était la mine même ?
Non, c'est des quelques rares qui pouvaient se permettre d'acheter un petit appareil photo. Donc,
Vous avez des souvenirs ?
Oui, ils étaient très rares.
Oui, voilà, donc on est reparti sur l'évocation de ces photos. Donc c'est
du
vrai
film.
Que... Voilà. Donc là, voilà, on est à nouveau sur un extrait du film. Alors, pourquoi on parle du film ? Pourquoi on parle du livre ? Parce que, donc, au début de la recherche, j'ai fait des entretiens filmés en Algérie et avec Daman Bouaziz, qui travaillait beaucoup avec le cinéma Le France. On a fait le montage de ces interviews. Et pour mettre aussi ce travail-là en perspective avec le travail que les Algériens font là-bas. Donc c'est un film de recherche et qui est fourni avec l'ouvrage. Donc c'est un supplément à l'ouvrage, donc, qui est dans le volet final de la couverture.
D'accord.
Voilà.
Et donc ce film... va nous amener à la question de immigration. Donc le départ et l'arrivée. Puisque finalement, l'impact de l'immigration sur les ouvriers et sur leurs familles c'est quelque chose qui est un peu le point de départ de le point de départ de cet ouvrage, enfin en tout cas dans les premiers chapitres.
Oui, en fait, j'ai essayé de retracer un peu l'histoire de cette cette histoire migratoire entre ces deux lieux que sont Timsrit et Saint-Étienne. Alors en fait, c'est pas seulement Saint-Étienne, hein, il y a aussi Saint-Chamond. C'est le bassin ouïe stéphanois, on va dire, même si c'était beaucoup Saint-Étienne, Roche-la-Molière aussi beaucoup. Et donc, en fait, oui, l'idée, c'était de montrer que c'était une histoire ancienne qui est très mal connue à Saint-Étienne. Et il y a beaucoup de Kabyles à Saint-Étienne. Et puis, comme ils ont été beaucoup après... En fait, c'est une mémoire qu'on a perdue. Parce que quand on interroge les anciens, ils nous disent, oui, bien sûr. Moi, quand je travaillais à la mine, il y avait aussi des Algériens avec moi, des Kabyles. Mais après, on l'a oublié parce qu'ils ont été, avec la reconversion, ils ont travaillé dans d'autres lieux et on les imagine plutôt dans d'autres industries. Et puis, donc ça a eu évidemment un impact sur la sociologie de Saint-Étienne, puisqu'on a beaucoup de familles maghrébines qui sont encore ici aujourd'hui et qui sont non pas la deuxième génération, mais la troisième ou la quatrième, peut-être même plus.
Alors, comme tu as fait allusion tout à l'heure, il y avait des Marocains et il y avait des Algériens.
Oui.
Et les conditions d'émigration sont différentes. Les Marocains signent un contrat préalable au départ du Maroc, avec les houillères. Il y a d'ailleurs des recruteurs qui viennent sur place et qui vont mesurer la capacité musculaire des gens qu'ils embauchent.
Et leur état de santé.
Donc
tout ça,
là, c'est vraiment une immigration un petit peu comme l'immigration polonaise, d'ailleurs.
J'allais te le dire, oui.
Sauf que les Polonais sont venus plus en famille, mais c'est quand même un peu la même chose. Tandis que l'immigration algérienne... vient essentiellement de ce qu'on appelle des filières.
Oui.
Hein? Donc des filières, d'où l'importance de ce choix de Timsrit, puisque finalement, il y a tout un village, toute une vallée. On a vu ça à la fin du 19e siècle pour les Piémontais, qui se déplacent de génération en génération, parce qu'il y a des relais, des oncles, des pères, des cousins qui sont sur place et qui peuvent les accueillir. Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu
En fait, oui, c'est là-dessus. Ça. Tu mets vraiment le doigt sur quelque chose qui est important. Quand on travaille sur l'immigration, on voit qu'effectivement, la plupart du temps, elle se spécialise. En tout cas, dans cette période du 19e et du 20e siècle. Maintenant, c'est plus compliqué. Mais il y a quand même effectivement une spécialisation de par le statut qu'on a par rapport au pays d'origine, d'accueil aussi, parce que comme tu le disais tout à l'heure, les Algériens n'avaient pas le même statut que les Marocains, puisque les Algériens, l'Algérie était un territoire français,
absolument.
Le Maroc était un protectorat. Donc, si on a besoin de recruteurs, de contrats avec le Maroc, avec les Marocains, c'est parce que c'est pas la France et que par conséquent, on va quand même dans un pays étranger chercher de la main-d'œuvre. Donc ça s'organise différemment, comme tu le disais, pour la Pologne. Donc c'est très organisé. Alors que pour l'Algérie, c'est une organisation, on va dire, spontanée, qui est très organisée aussi, mais qui vient des populations elles-mêmes et pas de l'État français.
Ah oui.
Et en plus, de toute façon, c'était pas vraiment l'État, parce que c'était généralement, dans les deux cas, des industriels qui organisaient... le recrutement des travailleurs. Alors justement en Algérie, la mine, elle était tenue par des industriels européens. C'était déjà un mode d'exploitation qui était occidental, j'allais dire, et industrialisé, puisqu'elle a commencé à s'industrialiser en 1911, je crois.
Des capitaux anglais et allemands, c'est ça?
Oui, je crois que c'est ça. Il faudrait vérifier dans l'ouvrage, mais c'est ça, à peu près. Et donc, les cadres de la mine sont des Européens de façon assez mélangée. Et les ouvriers, eux, par contre, sont des gens du cru, donc des Kabyles de la région de Timsrit. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, même si la région est très pauvre et que ça reste une région d'émigration, c'est aussi une région qui se stabilise grâce à la mine, pendant longtemps, jusqu'à la fermeture, donc dans les années 60.
Parce qu'il y a un retour de revenus qui permet le maintien
des familles sur place. Voilà. Et donc, mais c'est aussi ce qui a été, ça a aussi été un facteur d'émigration. Donc voilà, les choses hein, sont jamais complètement
c'était jamais simples. Insuffisant, c'était jamais suffisant pour nourrir une famille. Il fallait donc un revenu complémentaire.
Voilà. Et puis bon, il y a les familles, elles ont des hauts et des bas. Donc il y a des périodes où l'agriculture rapporte assez, la mine rapporte assez, puis des périodes où ça suffit pas. Et puis bon, les gens ont envie de bouger. La frontière est facile à franchir à cette époque-là entre l'Algérie et la France. On passe la Méditerranée relativement facilement. Enfin bon, ils nous racontent quand même qu'ils font pas mal de trajets à pied aussi, mais bon.
Ah oui, mais ça, mais tout, c'est tous les immigrants font de trajets à pied. Tout
voilà,
ça.
C'est ça. Ouais. Et donc, en revanche...
Deuxième chose qu'on pourrait dire, c'est donc à partir de l'extrait donc, qu'on vient d'entendre d'ailleurs... C'est cette différence de perception du paysage, ce qui découvre du paysage industriel, du paysage minier. Ce qu'il découvre, c'est une mine qui est très différente de celle de Timezrit.
Oui.
Hein, ça, et donc là, je reprends page 68. Le fond stéphanois était perçu par tous comme un monde fascinant, mais aussi effroyable. Tous le craignaient, les nouveaux candidats, les anciens qui avaient y descendre tous les jours, malgré le souvenir des éboulements et la mort d'un père ou d'un copain. Alors, la mine de Timezrit, c'est une mine à flanc de montagne qui descend. Enfin, on connaît un peu ça à Saint-Étienne avec les fendus, mais
oui.
Mais il n'y a pas les grands puits comme on connaît, comme le puits Pigeot, le puits Couriot. Ça n'existe pas, ça, à Timezrit.
Non, ça n'existe pas. C'est effectivement, ça ressemble effectivement à ce que tu dis, à ces puits à flanc de montagne. Donc, du coup, on y va à pied, on y descend à pied. Uh-huh. Et ce n'est pas les mêmes profondeurs du tout. Donc, il n'y a pas le même. C'est pas impressionnant de la même façon, même si ça les impressionne aussi, qu'il y a des éboulements aussi, oui. Et que la mine est moins sécurisée. Donc c'est très impressionnant, mais pas autant. Et alors en plus, il y a aussi quelque chose, c'est que donc si ils viennent à Saint-Étienne, c'est parce qu'à Saint-Étienne, il y a des mines et qu'ils se disent qu'ils savent, donc ils vont pouvoir travailler dans les mines. Mais en même temps, ça crée le fait de venir de Timezrit crée une sorte de mythe autour du mineur de Timezrit, qui fait qu'à Saint-Étienne, on les embauche facilement. On embauche facilement les gens de Timezrit, mais ils n'ont parfois jamais mis les pieds à la mine.
Ah oui.
Voilà, donc il y a une sorte d'expérience hypothétique pour toute personne venant de Timezrit, mais il y en a certains qui n'ont jamais mis les pieds dans la mine.
Alors il y a une expérience hypothétique, comme tu dis, mais il y a aussi une image.
Oui, c'est ça.
Une image, je dirais, ethnique.
Oui.
Qu'on lit dans certains rapports de préfecture. Les Marocains sont considérés comme des travailleurs sérieux,
en qui
on peut avoir confiance. Et au contraire, les Algériens, évidemment, ça va être décuplé pendant la guerre d'Algérie, mais ça existe déjà avant. Je me souviens avoir lu un rapport de 1947-1948 où on dit que les Algériens ne sont pas des travailleurs auxquels on peut avoir beaucoup, très, très grande confiance. Par contre, on fait une distinction entre Algériens arabes et Algériens kabyles. Il y a plus de confiance dans les Kabyles que dans les Algériens. Est-ce que je me trompe?
Oui, les Arabes, pardon. Alors après, ça, je pense que c'est un petit peu variable justement en fonction des époques. Parce que au moment de la libération de l'Algérie, les Kabyles sont vus différemment parce qu'ils ont des positions qui sont peut-être un peu différentes.
Radicales, plus radicales.
À la fois plus radicales, mais il y a le MNA aussi qui est plus modéré. Donc du coup, c'est bon. En fait, ce qui est important à retenir, c'est qu'il n'y a pas de réponse unique à ça, parce que c'est très très variable en fonction de l'état de l'industrie en France et donc de l'emploi. C'est-à-dire que quand c'est des populations dont on a vraiment besoin, on est beaucoup plus tolérant et indulgent.
Bien sûr.
Et quand on en a moins besoin, on est beaucoup plus intolérant. Et si on est plus intolérant envers les Algériens globalement que les Marocains, ça vient aussi de leur statut, paradoxalement. Parce que c'est des étrangers de l'intérieur, qu'on a toujours un peu la crainte d'une rébellion. Et en plus, ils sont quand même au dernier maillon de la chaîne à l'époque, donc ils sont très peu à être là en famille. Donc on craint toujours plus des immigrés, hommes seuls, jeunes, vaillants, forts, un peu rebelles. C'est le cas des Marocains aussi.
Mais ils sont facilement expulsables, à l'inverse.
Ils sont facilement expulsables.
On l'a vu en 1948, par exemple. Il y a quand même pas mal d'Algériens qui ont été expulsés du jour au lendemain.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est sûr.
Et ce qu'il y a, c'est que la colonisation, surtout pour les régions très reculées montagnardes, maintient quand même beaucoup les gens dans l'ignorance. et que du coup, cette absence d'instruction et d'école, quoi, de savoir lire et écrire en particulier, c'est quelque chose qui les poursuit beaucoup, et dans la vie sociale et dans la vie industrielle, puisqu'on craint qu'ils ne fassent des erreurs parce qu'ils ne comprennent pas les consignes.
Ah ouais.
Voilà, donc, et parfois
c'est l'aspect pervers de cette situation.
Voilà, tout à fait. Ouais, et en même temps, ça nous arrange. Enfin, ça arrange, je veux dire, l'industriel, parce que il y a un rapport à l'employé qui n'est pas le même que quand c'est un employé qui est qualifié. Et d'ailleurs, j'en parle un petit peu dans l'ouvrage sur les différences, les écarts de formation, qui pour les travailleurs étrangers sont moindres. Ils font en gros 3 mois de formation. De stage, ils appellent ça un stage, alors que les ouvriers mineurs français ont, je crois, il me semble que c'est 3 ans, donc l'écart est quand même considérable. Donc ils n'ont pas du tout le même statut. Alors il y a peut-être un petit extrait, oui, qu'on peut passer sur justement le rapport à la mine qu'ils ont là-bas. Antoine, si tu repères le...
Bis mikä
La mine, c'est la facilité parce qu'on a, ils connaissent le travail de la mine. Le travail de la mine, c'est un travail très dur. Ils ont déjà l'idée de l'exploitation du fer. Mon grand-père, il a une médaille d'honneur du travail. Je pense qu'elle a travaillé 35 ans à la mine.
Ils étaient recrutés ici, ils apprenaient un peu les métiers et puis ils partaient parce que c'était beaucoup plus rémunéré là-bas.
Oui.
Parce que là, ici, on a beau dire, c'était pas des salaires, moi je me rappelle, c'était la misère. Pour me payer mes cahiers, mon père, vous savez, c'était pas évident.
Ah oui.
Et oui, il s'endettait parce que lui, il avait quand même fait l'Indochine pendant 4 ans, donc il savait ce que c'était que les études et tout ça.
Ouais.
Avec son salaire, il n'arrivait pas quand même à le nourrir, donc il s'en était pour un cahier, c'était pas évident. Hein. Donc c'était pour ça, un peu ça qui les poussait à partir en France, parce que c'était beaucoup plus rémunéré. Même au niveau aussi des soins. Aussi.
Au niveau des soins?
Au niveau des soins, hein. Ils n'étaient pas soignés ici. Ils recevaient un médecin, je me rappelle, tous les mois, pour passer des visites à 700 ouvriers et leur famille aussi. Hein.
Oui, une seule fois par mois.
Oui, je me rappelle.
Donc, puisqu'on en revient à partir de ce qu'on vient d'entendre sur la question de la formation de ces mineurs immigrés depuis la région de Timezrit. Hein. Je rappelle qu'on parle de l'ouvrage de Catherine Gauthier, d'ici et de là-bas. Et donc, sur cette question de la formation, donc, au départ, la plupart de ces mineurs sont analphabètes.
Oui.
En tout cas, ils n'écrivent certainement pas en français. Je ne sais pas s'ils sont alphabétisés en arabe, mais il y a peu de chances quand même. Et en France, ils ont des opportunités pour se former ou bien ils restent analphabètes
Alors, ça dépend, il n'y a pas de généralité. Effectivement, ils sont quand même très, très majoritairement analphabètes. Et certains disent avoir appris à lire en lisant le journal parce qu'ils étaient soucieux d'avoir des nouvelles du pays.
Mmh.
Et que c'est à force de lire le journal qu'ils ont appris le français. Bon. En fait, ils l'apprenaient un petit peu entre eux avec celui qui savait déjà un peu. Et puis, il y avait quelques écrivains publics, comme je le disais tout à l'heure. Donc, les écrivains publics, c'était ceux qui avaient eu la chance d'aller à l'école à Timezrit. Généralement, ceux qui avaient eu la chance d'aller à l'école, c'était des fils de fonctionnaires ou de militaires, comme il en témoigne dans l'extrait qui vient de passer. Il y avait le lieu d'habitation qui jouait aussi, parce que quand on était à proximité de l'école, évidemment, c'était plus facile. Mais bon, généralement, c'était plutôt la proximité avec l'État français qui permettait d'aller à l'école qu'avec l'école.
Alors là, on a une photographie donc, au centre d'apprentissage du Grand Coin en 1971. Donc où on voit quelques travailleurs algériens, en tout cas maghrébins, qui sont à une table, qui sont en train d'écrire et de lire. Alors, est-ce qu'il y a eu une évolution dans le temps? Est-ce qu'une fois l'indépendance venue... sont arrivés des travailleurs qui avaient déjà été alphabétisés dans le pays, ou est-ce que c'est le gouvernement français, les ouillères du bassin Centre-Midi qui ont voulu développer la formation parce qu'ils se rendaient compte évidemment des aspects tout à fait négatifs d'avoir une population, une main-d'œuvre peu formée? Alors, est-ce qu'il y a une évolution, ou est-ce que c'est par rapport à la conversion nécessaire du bassin?
Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, la photo, là, elle porte plus sur la période de reconversion, en fait. Oui. Donc, c'était des ouvriers qui étaient déjà embauchés par les houillères depuis longtemps, qui avaient le statut de mineur, ce qui n'était pas le cas de tous les ouvriers maghrébins, parce que beaucoup avaient un statut qui était, en fait, un statut de contractuel, quoi. Et donc ils étaient embauchés pour un an et demi souvent, et puis donc ils pouvaient avoir plusieurs contrats dans leur vie, mais ils n'avaient pas forcément le statut de mineur. Et donc voilà, donc cette photo est plus la formation de mineurs avec le statut qui était reconverti au moment où la crise commençait à se faire sentir. L'alphabétisation, c'est plutôt fait par l'intermédiaire des syndicats. Donc moi, les mineurs qui m'en ont parlé, ils m'ont surtout parlé voilà, de la CGT. Comme un lieu de formation. Monsieur Laïdouni, par exemple, voilà, il faisait des cours du soir. Ouais.
Et à la Bourse du Travail.
À la Bourse du Travail. Donc, beaucoup ont été alphabétisés comme ça. Après, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Mmh. Et puis, il y avait quelques associations d'alphabétisation aussi qui étaient plus caritatives.
Plus chrétiennes.
Et voilà, généralement, c'était des associations chrétiennes qui prenaient en charge... Les travailleurs, parfois avec un prosélytisme un petit peu accentué. Et puis après, bien sûr, quand les familles sont venues, ils ont participé aussi à l'accueil de ces familles et à l'alphabétisation des mamans, amener des ouvrages dans les familles, etc., comme me raconte la famille Baka, par exemple, qui témoigne dans l'ouvrage. Il y avait un autre aspect dans ce que tu me disais par rapport aux apprentissages.
Par rapport à la volonté du patronat d'avoir...
Alors, effectivement, la volonté de former...
D'améliorer.
Donc, il y avait des formations, mais un peu sur le tas, en fait, autour de la sécurité. Donc, il y avait des affiches, notamment, on le voit dans l'iconographie des houillères, on le voit un peu au musée. Les affiches de sécurité étaient très imagées. Donc, il y avait parfois... pas du tout de texte. Et on montrait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire avec une croix ou une absence de croix, avec parfois donc des postures un peu caricaturales et tout ça. Et puis un petit peu de formation pour expliquer le contenu de ces affiches, les raisons pour lesquelles on les mettait et tout ça. Et en revanche, des témoins m'expliquent qu'ils sont formés au moment où on veut leur donner une responsabilité supplémentaire. Donc leur faire passer un grade, un échelon. Et donc, il y a un mineur qui me raconte, alors j'ai oublié son nom là tout de suite, Monsieur Berkache, voilà, qui me raconte qu'il a un peu sauvé ses copains lors d'un coup de grisou. En fait, ce n'était pas un coup de grisou, c'était un coup de poussière. Donc le coup de poussière, c'est la poussière de houille qui s'enflamme. Et donc, ça a fait une explosion, quoi, en fait, oui, un souffle. Donc, il a eu la présence d'esprit de faire des premiers gestes de sauvegarde et d'alerte. Et donc, devant cette bonne réaction, on lui a fait faire un stage et il est passé chef d'équipe, en fait.
D'accord.
Mais c'est vrai que dans le contenu des témoignages que j'ai eus et puis les choses que j'ai pu lire d'autres travaux qui ont été faits sur les carrières de mineurs étrangers en particulier, il n'y avait pas beaucoup de promotion à l'intérieur de la mine, sans doute à cause de ces déficiences d'instruction au départ et puis d'une politique sociale qui n'était pas forcément toujours très favorable.
Très, très généreuse et très, voilà. Qui ne voyait pas à long terme, en tout cas.
Voilà.
Et l'autre grande question, c'est ça, dans le même sens finalement, c'est celle du logement, bien sûr. Alors, on sait que Saint-Étienne est qualifié à la fin des années 40 de capitale des taudis, ce qui est, évidemment constitue en soi déjà un scandale. Mais il y a un scandale à l'intérieur de ce scandale, c'est le logement des travailleurs immigrés. Et dans l'ouvrage, il y a quelques photographies. Donc là, on a une photographie déjà de 1931, donc de François Collard, qui nous montre une vue de la cité Bayon à la Ricamari. Alors, photographie étonnante, puisque l'arrière-plan aujourd'hui est totalement changé, aussi bien au fond droite avec le quartier autour du cimetière qui a été totalement transformé, et puis à gauche avec la construction du centre commercial, et la cité elle-même a disparu. Donc on a une recomposition des paysages qui est intéressante, mais on voit ici donc sur cette photographie que un logement de type très rudimentaire, presque de cabane.
On appelle ça des baraquements d'ailleurs.
Voilà, des baraquements et très tiré au cordeau. Hein, ça fait penser quelquefois, si on veut être un peu méchant, à des camps de prisonniers.
Mm-hmm.
Hein. Et puis on a aussi, bon bien sûr, le quartier de Tarentaise. Alors, une photographie de Le Pont, cette fois-ci, quartier de Tarentaise, qui a été rasé à l'époque de la municipalité Sangdols, mais qui reste finalement une terre d'implantation de la communauté maghrébine. Mmh. Alors, ces logements, ces conditions de logement sont épouvantables, elles sont dénoncées régulièrement par... notamment par la presse communiste, mais aussi par la presse chrétienne, notamment dans la Dépêche, il y a des articles régulièrement. Donc tes témoins t'ont parlé de leurs propres difficultés à trouver un logement, des loyers aussi qui sont exorbitants pour des choses qui sont tout à fait scandaleuses.
Oui, alors ils m'en parlent beaucoup. J'ai oublié de dire que j'ai interrogé des mineurs en Algérie, des mineurs et quelques mineurs ici, mais ici j'ai interrogé beaucoup de fils et filles de mineurs. Mmh. Donc les mineurs eux-mêmes en Algérie, quand ils me parlent de leur expérience ici, me parlent de leurs conditions de logement. Et eux, ils me parlent surtout des logements en garni. Donc en fait, c'était des pièces qu'ils louaient à plusieurs, à des prix effectivement assez élevés, et qu'ils préféraient au cantonnement. Alors que les...
Oui, parce qu'ils étaient au centre-ville.
Parce qu'ils étaient au centre-ville, ouais. Qu'ils étaient proches des puits,
ouais.
Et qu'ils étaient proches de la vie sociale du ouais. centre-ville. Et surtout, ils n'étaient pas soumis à la discipline militaire qu'il y avait dans ces logements-là. Donc, quand tu parles de camp de prisonniers, ils n'en parlent pas dans ces termes, mais ils parlent plutôt de logements de régiment, quoi.
Oui, oui.
Ils avaient une discipline de fer et ils étaient tout le temps, l'impression d'être tout le temps surveillés, ça ne leur plaisait pas. Alors qu'en garni, finalement, ils faisaient un peu comme ils voulaient, même s'il y avait des conditions de vie qui étaient quand même très très dures, avec beaucoup de promiscuité.
Oui.
Alors souvent, ils se logeaient entre... ils se connaissaient, quoi, entre eux. Il y a des adresses qui sont récurrentes, comme le 9 rue de la Barre, qui a complètement disparu. Il y a une photo,
oui,
j'ai pas noté la page, mais... donc la rue de la Barre, elle est à côté de la Comédie de Saint-Étienne, et
c'est le quartier.
Il y avait une buvette à cet endroit-là, et donc en fait effectivement il y avait aussi des logements qui étaient au-dessus des cafés-restaurants, qui étaient tenus parfois par des Algériens d'ailleurs. Dans la rue Tarentaise, il y en a beaucoup, et donc ils se logeaient dans la buvette des amis, ouais. Voilà,
c'est à l'emplacement de l'immeuble de la sécurité sociale.
Oui, c'est ça. Et donc, voilà, et les familles parlent des conditions de logement très difficiles, du froid, alors qu'ils étaient chauffés. On dit qu'ils avaient des privilèges, par exemple, puisqu'ils avaient la prime de charbon. Mais bon, comme c'était des maisons qui étaient quand même très rudimentaires, ils avaient très froid. Ils avaient chaud quand ils étaient autour du poêle, mais la pièce à côté était très froide.
La photographie est évocatrice. Hein. On voit bien qu'il y a plusieurs logements, plusieurs appartements, plusieurs locations dans la même
oui.
bâtisse. Une bâtisse.
Et il y avait des arrière-cours.
Voilà, avec des escaliers extérieurs.
Oui.
Donc en hiver, on imagine ce que
oui.
ça représente. Le linge qui dans la cour, ou les enfants. Enfin bon, tout est c'est assez, effectivement, une image assez classique du Saint-Étienne
oui.
des années.
Et d'ailleurs,
50.
Ça, c'est quelque chose qui était très très marquant dans l'exposition. Et je pense que c'est une des parties des photos qui étaient les plus observées par les visiteurs, toute origine confondue, qui reconnaissaient vraiment le Saint-Étienne
oui.
d'une époque révolue oui. où il y avait énormément de taudis et tout ça.
Oui.
Alors du coup, je vois le temps qui passe et je voudrais faire une petite ouverture. Les témoins ont été très désireux de se dire, de se raconter, et les familles très, touchés par la démarche. Et du coup, avec Daman, qui a fait le montage du film, et puis Sandrine Binou et Mathieu Bonjour, les photographes avec lesquels j'ai travaillé en Algérie et en France, on a décidé de poursuivre le travail autour précisément de cette question de, non pas du logement, mais des cafés, des cafés-restaurants comme lieu d'accueil de l'immigration. Donc pour cette immigration-là et ces époques plus anciennes, on va dire depuis le début du XXe siècle, et puis voir de quelle façon ça a évolué et sous quelle forme il se présente aujourd'hui, et voir comment ils ont disparu, parce que beaucoup ont disparu. Mais en tout cas, c'est des lieux qui ont joué un rôle très très important dans beaucoup d'immigration, et on voudrait en refaire un peu l'histoire aujourd'hui. Donc du coup, je lance un appel à archives et témoignages sur cette question des cafés, donc des personnes qui tiennent des cafés ou des personnes qui ont eu l'habitude de les fréquenter. Voilà, donc...
Donc vous pouvez contacter Radio Audio, voilà. Et on transmettra à Catherine.
Il y a un site internet, mais voilà. Ça sera plus simple par Radio Audio, ils me feront suivre.
Il y a le site du Grémos.
Et il y a le site du Grémos aussi.
Vous pouvez contacter. Justement, c'est pour cette raison que tu avais fait, il y a un an ou deux ans peut-être, une présentation au café de la Place Tardy. Là, tu avais présenté...
Oui, alors il y avait eu le café de la Place Tardy sur la place Buisson, oui, le café de Joujou, le cyber, le net café.
Oui.
Et puis il y avait eu une soirée aussi au PMU de la Comédie.
Ouais.
Donc à côté de la Comédie de Saint-Étienne, chez Mourad Yaya. Et on avait fait aussi une soirée où on avait projeté des passages du film. Ben en fait, j'aime bien travailler comme ça, c'est-à-dire que je mets à contribution les témoins eux-mêmes pour prendre part à ce recueil de témoignages, livrer le leur, mais aussi participer un peu au travail. Et puis les cafés, c'est des lieux assez sympas pour échanger autour de travaux qui peuvent paraître un peu intello et qui pour autant se veulent bien plus abordables que seulement par l'université.
Oui. Alors, une dernière question quand même, peut-être, enfin un dernier point plus exactement. Tu connais mon intérêt pour le monde social et la vie politique, donc autour de 48 et des années qui suivent. Tu fais mention évidemment de l'engagement de certains de ces militants dans la vie syndicale. Il y a quelque chose que tu pointes qui me semble tout à fait intéressant, parce que j'aurais des choses à dire aussi, j'ai rencontré le même phénomène, c'est ce que tu appelles la xénophobie dans le monde ouvrier.
Oui.
Cette xénophobie dans le monde ouvrier, elle est un peu masquée par le discours, je ne vais pas dire angélique, mais parfois un petit peu quand même, de l'internationalisme du Parti communiste, qui pense que les ouvriers sont nécessairement solidaires parce qu'ils sont ouvriers. Elle est masquée par ça, et malgré tout elle ressurgit. Alors elle ressurgit parce que, alors pendant la grève de 48, il y a participation des Algériens, mais en même temps il y a un moment très très net où on sent que les ingénieurs pensent que la main d'œuvre algérienne va pouvoir servir de remplacement contre les grévistes, donc en quelque sorte faire jouer le rôle de jaune. Et puis cette xénophobie, ça va alimenter évidemment certaines concurrences entre les populations selon leurs origines nationales, et c'est évidemment la guerre d'Algérie va exacerber tout ça. Et moi, je voudrais juste donner un témoignage qui est celui de Théo Vialmassa, qui est secrétaire de la fédération, qui intervient au comité central du Parti communiste en mars 1958, donc on est en plein moment où la guerre d'Algérie est en train d'exploser, et qui évoque une manifestation algérienne réprimée violemment par les CRS, où il dit que des ouvriers ont applaudi les CRS.
Des ouvriers.
En disant, des ouvriers stéphanois, des Français de souche, comme dirait l'autre. Et ces ouvriers stéphanois ont applaudi les CRS. Et ils disent, c'est les mêmes mineurs qui, 10 ans auparavant, se sont battus contre les CRS pendant la grève de 48, approuvaient les CRS parce que c'était la cible, c'était les ouvriers immigrés. Donc en fait, la montée de la xénophobie, certes, on peut pas l'attribuer au Front National. Il a surfé dessus, mais c'est pas.
Oui,
c'est...
bien sûr.
Donc, ce qui est intéressant dans ce témoignage de Théo Vialmassa, c'est qu'il montre que même à l'intérieur du parti, même à l'intérieur du syndicat, il y avait des manifestations de xénophobie. Alors, comment les Algériens eux-mêmes t'en ont fait part de cette sensation?
C'est vrai que ça, j'essaye de le montrer dans l'ouvrage, c'est qu'il y a le mythe de l'ouvrier
solidaire.
L'expression qui revient tout le temps, c'est de dire on est tous noirs au fond. Donc
oui,
y a pas
c'est
de
ça.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très récurrent dans tous les discours, que ça soit les discours des mineurs ou de leurs enfants. Et j'ai beaucoup d'anecdotes sur le fait qu'ils apprenaient toutes les langues, qu'ils partageaient la portion, comme on dit, à Saint-Étienne, et qu'il y avait il y a des témoignages très touchants d'ailleurs de solidarité qu'on dit assez peu, mais entre gouverneurs et famille, où la famille Baca a été un temps hébergée au rez-de-chaussée de la belle maison de contremaître, parce qu'ils s'entendaient très bien et que le contremaître ne voulait pas quitter sa maison, et que voilà, bon, il y a des voisinages très chaleureux aussi. Mais effectivement, on m'explique qu'il y a une grande tension dans la mine, parce que c'est un milieu extrême, et qu'en plus, le milieu ouvrier... En sociologie, on sait bien que c'est aussi un lieu de clivage important qui est dû à la difficulté de vivre, peut-être aussi, et de travailler. Et que c'est quand même concurrentiel parce que les postes, on les a aussi en fonction de tout un tas de choses et puis en fonction des rapports qu'on a à la hiérarchie. Et que bien sûr, en période nécessaire, la hiérarchie s'emploie toujours, quelles que soient les époques, les situations, à diviser son personnel. Et le monde ouvrier n'échappe absolument pas à cette règle-là. Et comme il est très hiérarchisé lui-même, eh bien, entre les différentes catégories d'ouvriers, niveau de spécialisation et origine culturelle et sociale, ça joue évidemment. Mais c'est assez tabou. Alors c'est tabou parce que le monde ouvrier se construit dans la cohésion et que donc on cherche à masquer ces divisions, mais aussi parce que c'est devenu tabou parce qu'on a idéalisé ce passé et on sait bien qu'aujourd'hui on est dans une idéalisation en plus du monde ouvrier, en règle générale dans la société actuelle, qui a tendance à avoir une vision un peu romanesque des choses, et c'est aussi parce que le temps passe et que c'est un monde qui disparaît.
Oui, mais est-ce que cette idéalisation, est-ce que cette occultation plus exactement, n'explique pas le fait que cette xénophobie ressurgisse aujourd'hui avec peut-être qu'elle n'aurait...
C'est-à-dire que c'est un impensé.
Ouais.
Donc à partir du moment où on ne pense pas les choses et qu'on ne s'autorise pas à en parler... C'est des choses qui sont enfouies et qu'on s'interdit de comprendre aujourd'hui. Mais bien sûr, tu as raison. Et
mais à gauche comme à droite, parce que la gauche se cache derrière un discours un peu larmoyant, un peu angélique, et en fait, elle contribue peut-être à favoriser la montée de cette xénophobie chez les ouvriers français.
Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi.
Parce que finalement, quelqu'un qui fait un acte délictueux de délinquance, c'est d'abord un délinquant.
Bien sûr.
C'est pas un Algérien, un Tunisien, un Marocain, un Polonais, un Norvégien. C'est d'abord un délinquant.
Bien sûr.
Et c'est comme ça qu'il faut le traiter. Enfin, je sais pas.
Mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'il y avait un enjeu fort pour moi à représenter dans cet ouvrage-là l'engagement.
Voilà.
L'engagement syndical et politique de ces Algériens qu'on a tendance à considérer toujours comme absents des manifestations, absents de tout militantisme, alors que justement dans l'ouvrage, j'ai voulu montrer qu'ils sont à la fois militants sur la question ouvrière et sur la question sociale, puisque ces enfants de mineurs aujourd'hui, ceux que j'ai rencontrés, sont très très engagés dans la vie sociale et culturelle de Saint-Étienne.
Voilà, juste en conclusion, un très bel ouvrage qui est indispensable pour comprendre le Saint-Étienne d'aujourd'hui.
Il est en vente au musée de la mine, et à la librairie de Paris et à la librairie l'une et l'autre.
Voilà.
Merci beaucoup à tous.
Merci à vous, Jean-Michel et Catherine. Donc, c'était la dernière émission de la saison du Grémos sur Radio Dio, donc, qui devrait être rediffusée ce soir à 19h et probablement ce week-end. On n'a pas encore les horaires. Donc, merci à vous et bonne continuation sur Radio Dio.